sur France Culture, il est 18h, le journal Benoît Bousquerel. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Les États-Unis annoncent leur sortie prochaine du traité sur les armements nucléaires de portée intermédiaire. C'est Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qui vient de l'annoncer, tout en faisant porter la responsabilité de cette décision sur Moscou. Nous allons à New York dans un instant. Le scandale de la viande polonaise avariée importée en France. Les 9 entreprises qui l'ont importée ont été identifiées par les autorités sanitaires. Dans ce journal, le témoignage du journaliste polonais qui a révélé l'origine de l'affaire dans un abattoir du nord du pays. Nous parlerons également du grand débat national. Une 60aine de maires d'outre-mer sont actuellement reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron. Et puis l'enquête de cette édition, elle est signée ce soir. Laetitia Chérel, 3 mois après l'effondrement de 2 immeubles en plein centre-ville de Marseille et la mort de 8 personnes. Une enquête qui souligne l'incurie des autorités municipales sur cette question. On s'y attendait, c'est fait. Les États-Unis viennent d'annoncer par la voix de Mike Pompeo qu'ils cesseront dès demain de respecter le traité de désarmement nucléaire signé avec la Russie en 1987. Traité sur les armements nucléaires de portée intermédiaire entre 500 et 5500 kilomètres. D'après le secrétaire d'État américain, c'est la Russie qui refuserait de prendre les mesures pour revenir à un respect réel, je cite, du traité. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Benoît.
En direct de New York pour France Culture, à l'issue d'une période de 6 mois, sauf modification peu probable de la politique russe, le traité INF sera donc définitivement caduc.
Oui, peu probable effectivement, tant les discussions des derniers mois, voire des dernières années sur la question, n'ont absolument rien donné. Ce retrait américain, en effet, n'est pas seulement le fait de l'imprévisible Donald Trump. Les premières accusations datent de 2014, sous la présidence de Barack Obama. Washington, en décembre dernier, avait ensuite donné 60 jours à la Russie pour démanteler une nouvelle gamme de missiles. Mais Moscou, depuis, défend ses fusées, leur portée serait tout à fait légale, c'est ce qu'affirme le Kremlin. Résultat, Washington va donc suspendre dès demain ses obligations. Inscrite dans le traité INF, restera un délai de 6 mois dont vous parliez aux deux pays pour éviter de déchirer ce texte clé de la fin de la guerre froide. L'accord remonte à 1987, on est en pleine crise des euromissiles pointés sur l'Europe. Les deux puissances signaient alors ce traité de désarmement qui abolit l'usage des missiles terrestres d'une portée comprise entre 500 et 5500 kilomètres. 30 ans après, il ne reste plus grand chose du texte, même si les deux pays font mine aujourd'hui de le défendre. Moscou va jusqu'à accuser Washington de menacer la paix. Vladimir Poutine met en garde contre une nouvelle course aux armements. Quoi qu'il en soit, si rien n'est fait, eh bien ce sont encore les Européens qui se retrouveraient entre les deux pays.
Merci Loïc Loury en direct de New York. Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet, libérés de prison à La Haye, les procureurs de la Cour pénale internationale ont décidé de libérer sous condition l'ancien président ivoirien et l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes. Les deux hommes avaient été acquittés de crimes contre l'humanité le 15 janvier dernier en première instance. Mais suivant les demandes de l'accusation, les procureurs de la CPI ont interdit aux deux hommes de rentrer dans leur pays. Ils devront être remis à un État adhérent de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. Le scandale de la viande avariée en provenance de Pologne. Suite, près de 800 kilos de cette viande issue d'animaux malades ont été retrouvés en France dans 9 entreprises de l'agroalimentaire, des entreprises qui viennent d'être identifiées, explique le ministère de l'Agriculture. On va y revenir. L'affaire est partie de contrôles effectués par les autorités vétérinaires polonaises suite à la diffusion samedi dernier d'un reportage à la télévision. Reportage signé de Patrick Szczepaniak, journaliste qui s'est fait embaucher dans un abattoir du nord du pays. Écoutez son témoignage. Il est au micro de notre correspondant en Pologne, Thomas Giraudeau.
Tout le processus d'abattage des vaches malades se passait la nuit. Durant ma première nuit, les vaches ont commencé à arriver. La première était décapitée, n'avait plus sa tête. Et puis les suivantes, une vingtaine, étaient toutes malades. Elles ne pouvaient pas se déplacer seules. On devait les tirer grâce à une corde attachée à leur cou, à leur corne. Il devrait y avoir des vétérinaires à l'abattoir pour examiner chaque bête, avant, pendant et après l'abattage. Je n'en ai jamais vu un seul la nuit. On a eu l'ordre de notre chef d'apposer un tampon sur les carcasses avant qu'elles soient transportées ailleurs, attestant qu'elles sont en bonne santé. Quand on a montré au vétérinaire de l'abattoir ce qu'il se passait, il a fait comme s'il n'était pas au courant, alors qu'on a les preuves qu'il signait les papiers le matin, attestant que la viande était de bonne qualité.
Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir.
Alors les entreprises françaises qui ont importé la viande avariée issue de cet abattoir ont été identifiées. 9 traders et grossistes. Au total, les autorités sanitaires françaises ont retrouvé la trace de 650 kilos de cette viande sur les 800 qui auraient été importés. Évidemment, cette viande n'aurait jamais dû pouvoir arriver en France. C'est l'occasion de rappeler que des règles de traçabilité existent en Europe. Elles ont d'ailleurs été renforcées récemment. Mais les scandales continuent tout de même.
Effectivement, et pourtant, le scandale de la vache folle en 96, puis en 2013, celui des lasagnes à la viande de cheval, jugé en ce moment, justement, avait contribué, vous l'avez dit, à renforcer cette réglementation européenne. Et en France, sous l'impulsion des agriculteurs eux-mêmes, un système d'étiquetage s'est mis en place, le label Viande de France, qui certifie les viandes d'animaux nés, élevés, abattus et transformés sur le territoire. Une démarche de transparence, mais aussi de qualité. Les viandes qui ont droit à ce label doivent souscrire à un cahier des charges sociales et environnementales strict. Ce sont des viandes qu'on retrouve chez le boucher ou en détail. Or, les viandes incriminées lors des derniers scandales alimentaires sont plus souvent, elles, à destination de la restauration dite hors foyer ou des plats industriels issus d'animaux achetés un peu partout en Europe par des courtiers qui les vendent à des grossistes, qui les vendent à des industriels, qui les revendent transformés à des commerçants. Un réseau européen de détail détection des fraudes alimentaires a pourtant été mise en place en 2013, mais la question aujourd'hui, c'est surtout celle de la rigueur effective des contrôles sanitaires et alimentaires qui ne sont pas toujours effectués, faute de moyens parfois. Et quand ils sont effectués, les autorités compétentes rechignent à en informer rapidement les citoyens. Enfin, il n'y a qu'en France que l'origine de la viande et du lait présent dans les plats préparés doit être mentionnée sur l'étiquette, et encore à titre d'expérimentation que l'Europe a consenti à accepter. On part de très loin.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin. En Méditerranée, désormais, plus aucune ONG ne patrouille au large de la Libye. Cet après-midi, les gardes-côtes italiens ont en effet annoncé avoir bloqué le navire Sea-Watch 3 dans le port de Catane, en Sicile. Les arguments donnés par les autorités italiennes sont techniques, portant officiellement sur une série de non-conformités relatives notamment à la convention de l'ONU sur le droit de la mer. L'équipage, qui a secouru 47 migrants dans la semaine, voit plutôt derrière cette décision une pression politique du gouvernement populiste italien. À Rome,
c'est le respect de normes techniques que des militaires italiens sont en train de contrôler sur le navire Sea-Watch 3 dans le port de Catane. Rien de judiciaire, il ne s'agit pas d'une séquestration comme par le passé pour d'autres navires de secours. En l'occurrence, l'embarcation hollandaise serait enregistrée comme navire de plaisance. Elle n'a pas le droit de secourir des personnes en mer, conclut le ministre des Transports italien. Mais l'équipage n'y voit pas autre chose qu'une mainmise politique. Il a obtenu le feu vert de débarquer mercredi après avoir dû patienter 12 jours au large des côtes italiennes, avec 47 migrants à bord, dont une quinzaine de mineurs. Le Sea-Watch 3 était l'unique navire patrouillant encore au large de la Libye. Face au blocage des autorités nationales ou au retrait des pavillons, les ONG ont soit mis fin à leurs activités, soit les ont suspendues. Les Allemands de CI ont l'intention de repartir d'ici 2 semaines, tandis que SOS Méditerranée cherche un nouveau navire et un nouveau pavillon. Le navire Aquarius a dû cesser ses opérations en décembre dernier.
À Rome, Mathilde Imberti. En France, le grand débat suite avec la question des Outre-mer. Emmanuel Macron reçoit cet après-midi à l'Élysée une 60aine de maires de l'Outre-mer. Une 4e réunion avec des élus locaux pour le chef de l'État dans le cadre de ce grand débat national après l'Eure, le Lot et la Drôme. L'occasion de constater que malgré les assises de l'Outre-mer qui ont abouti en juin dernier au livre bleu dans lequel le gouvernement s'engage pour les territoires ultramarins, il reste beaucoup à faire. Reportage de Rosalie Lafarge.
Ils ont fait le déplacement à leurs frais. Alors l'idée, bien sûr, c'est de faire valoir les particularités et les besoins spécifiques des territoires représentés, de la Guadeloupe à la Réunion, en passant par la Guyane, Mayotte et la Martinique.
Les décisions prises par les différents gouvernements n'ont fait qu'accentuer les inégalités à la Réunion.
L'évolution du climat est venue ajouter l'échouage massif des algues sargasses.
Transformons l'État dans les dômes, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
Vous imaginez une île qui doit faire face à la loi du littoral, à PPRI, à l'espace naturel remarquable.
Nous n'en pouvons plus avec les contraintes.
Le chlordécone, la montagne d'or en Guyane, la vie chère, les problèmes se succèdent au micro de la 60aine de maires présents. En même temps, c'est l'idée de ce moment.
Dites les choses de manière directe.
Dès son introduction, Emmanuel Macron a appelé les élus à la franchise parce que l'objectif affiché pour le président, c'est d'avancer aujourd'hui, d'aller plus loin que ce qui a déjà été fait.
Il y a eu déjà, notre maire, beaucoup de débats. Et il y a eu ces assises qui ont permis de préparer le livre bleu, et donc l'action commence. Néanmoins, ça n'épuise pas nombre des sujets. qui aujourd'hui traverse notre pays.
Et si certains ont décliné l'invitation à une rencontre jugée inutile après les assises de l'outre-mer et le livre bleu, d'autres, comme Ralph Monplaisir, le maire de Casse-Pilote en Martinique, ont au contraire eu envie de saisir cette nouvelle opportunité.
Ça ne fait pas de mal de répéter, on ne met de la graisse aux roues que des brouettes qui grincent. Donc ça fait pas de mal de revenir graisser un peu, peut-être qu'on aura un petit peu de graisse.
Un peu de graisse et surtout de nouveaux engagements concrets, ceux qui sont ici l'assurent. Les précédentes consultations, si elles ont parfois aidé, n'ont pas réglé les problèmes. Sur le terrain, les besoins sont toujours là.
Rosalie Lafarge, depuis le palais de l'Élysée cet après-midi. Et le grand débat continue. Édouard Philippe a annoncé tout à l'heure qu'il recevra syndicats et patronats mercredi pour évoquer leur place dans ce grand débat. Et les scientifiques, eux aussi, sont priés d'y participer. C'est l'appel que leur a lancé tout à l'heure le Premier ministre à l'occasion des 80 ans du CNRS. Pour Édouard Philippe, les scientifiques doivent amener leur contribution, leur avis et leur capacité à mettre en perspective. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Dans son discours prononcé à la Maison de la Mutualité à Paris, Édouard Philippe a tenté quelques parallèles entre la situation actuelle des politiques contestées et celle de la vérité scientifique, de plus en plus souvent remise en cause.
La science a des choses à dire, a lancé Édouard Philippe. Se faisant même alarmiste, il ajoute qu'il serait mortifère et probablement même criminel pour la démocratie que les scientifiques ne participent pas à ce débat, qu'ils n'apportent pas leur contribution, leur capacité à mettre en perspective. Le Premier ministre s'est lancé dans une tentative de démonstration philosophique aboutissant à cette conclusion, la remise en cause de la légitimité des élus n'est pas sans lien avec une remise en cause de la science, selon les mots du chef du gouvernement. Édouard Philippe, qui aime utiliser des citations, souhaite faire mentir Raymond Aron, qui avait écrit que la vocation de la science est inconditionnellement la vérité, alors que le métier du politicien ne tolère pas toujours qu'on la dise. Après les appels aux maires de prendre leur part, c'est donc maintenant le monde scientifique, dont la situation de financement est qualifiée de dramatique par les syndicats du secteur, qui est appelé par le Premier ministre à venir contribuer au grand débat. Et pour donner des gages au monde scientifique, le Premier ministre annonce une future loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Car vous avez besoin de temps, vous avez besoin de moyens, a reconnu Édouard Philippe. Et cela concerne la puissance publique, mais aussi la puissance privée, selon les mots du Premier ministre. Il annonce donc la création de 3 groupes de travail, composés de parlementaires, de scientifiques, de directeurs d'organismes de recherche, de présidents d'universités et d'industriels, avec pour objectif un texte de loi d'ici la fin de l'année pour un débat au Parlement dans un an.
Merci Sophie Delpont. La loi qui pénalise les clients de prostituées est bien conforme à la Constitution. Ainsi en a décidé aujourd'hui le Conseil constitutionnel qui prend dans ce dossier une position proche de celle des abolitionnistes, estimant que liberté d'entreprendre et liberté sexuelle peuvent être limitées si pour tenter de protéger les prostituées. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Du côté des requérants, 9 associations dont Médecins du Monde ou encore le syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe qui avait saisi le Conseil il y a un peu plus d'un an. Pour ces requérants, ces associations, cette décision a une nouvelle fois un goût amer.
Oui, beaucoup de désarroi, d'inquiétude aussi du côté des personnes prostituées elles-mêmes comme Thierry, du Stras, du syndicat dont vous venez de parler, qui regrettent que le législateur ne tienne jamais compte de la parole des travailleurs du sexe.
La grande majorité des Français sont convaincus que les travailleurs du sexe sont victimes de proxénétisme et de traits d'êtres humains. Or, en réalité, c'est une minorité d'entre nous. Mais c'est un mensonge qui est tellement répété depuis des décennies par les prohibitionnistes que les gens sont persuadés. Et comme nous sommes stigmatisés et que la stigmatisation, ça a pour but d'invalider notre parole, parce qu'évidemment, la plupart des travailleurs du sexe n'osent pas parler à visage découvert. Mais même les personnes qui osent le faire, du coup, sont de suite condamnées comme complices des proxénètes ou avec des justifications pathologisantes comme le fait qu'on serait de toute façon endommagé par des viols dans l'enfance qui fait qu'on ne saurait pas réellement ce qu'on fait de notre vie. Et ça, l'enjeu principal des luttes aujourd'hui, c'est qu'on est face à un système qui nie les travailleurs et travailleuses du sexe comme des citoyens à part entière et pour qui on peut sacrifier des droits et des libertés fondamentales.
Car le Conseil constitutionnel estime que l'objectif, lutter contre le proxénétisme, justifie bien cette pénalisation des clients qui, de fait, restreint les libertés. Auria aide à Toulouse des prostituées à prendre soin de leur santé et voit des victimes de traite dans la rue notamment.
Il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas. Bien sûr, c'est une réalité. Mais là où il y a quelque chose qui ne va pas dans tout le discours abolitionniste qui se prétend féministe et être du côté des victimes, c'est que ce n'est pas en pénalisant les clients qu'on lutte contre les réseaux de proxénétisme. Ces lois n'ont qu'un impact, c'est celui de fragiliser encore plus les premières concernées.
Face aux clients toujours moins nombreux, certaines prostituées sont contraintes d'avoir recours à des intermédiaires et renoncent partiellement à leur indépendance. Ce sont en tout cas les associations de terrain qui le disent.
Merci Tara Schlegel. 150 familles toujours en attente de solutions de relogement à Paris pour la troisième soirée consécutive. Elles s'apprêtent à dormir dans un gymnase du 8e arrondissement. Gymnase réquisitionné pour elles par le droit au logement. En Ile-de-France, le plan Grand Froid est pourtant activé et certaines des personnes dont il est question sont prioritaires. D'ALO, le droit au logement imposable, opposable. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
Vous avez pu entrer dans le gymnase occupé cet après-midi et constater une nouvelle fois que la loi d'ALO, tout comme les promesses plus récentes d'Emmanuel Macron sur les personnes à la rue, n'ont pas, loin de là, fait disparaître le problème.
Pour preuve, dans la petite salle de ce gymnase tout proche de l'Elysée qui sert normalement pour des cours d'escrime ou de gym suédoise, il y a en ce moment plusieurs dizaines de personnes installées sur des matelas de gym, beaucoup de familles avec des enfants, parfois des bébés de quelques mois, dont les biberons sont réchauffés dans les bars alentours. Sambou est venu seul. Il a été expulsé de son HLM avec sa femme et ses trois ados. Le couple a eu de graves problèmes de santé. Les salaires ont baissé et impossible de continuer à payer le loyer. Depuis plus d'un an, la famille vit donc à l'hôtel dans les Yvelines, à 50 km du lycée de la plus jeune.
Nous, on est dans une chambre. Puis mes trois enfants, ma fille et ses deux frères, ils sont dans la chambre. Une petite chambre de 9 mètres carrés. Ma fille, elle est en lycée aussi, à Bagnolet. Elle quitte de Sainte-Loup-les-Vignes à 5 heures du matin, tous les matins. On est en train de se battre pour trouver les solutions.
Une solution pérenne, c'est ce que tous attendent ici. Habiba n'a pas eu de logement depuis 2001 lorsqu'elle a quitté son mari violent avec ses deux enfants. Il y a d'abord eu la famille pour l'héberger, puis les hôtels et depuis deux jours, ce gymnase.
Donc d'un côté c'est bien, mais dans l'autre pour dormir, tout ça c'est dur, très dur.
Il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde, oui. On n'a jamais vécu ça, mais on n'a pas le choix.
Et puis la promiscuité, le bruit également dans ce gymnase où tous sont pourtant prioritaires pour des logements. Jean-Baptiste Hérault est le porte-parole du DAL.
Beaucoup de travail, ils ont un petit revenu quoi. Mais ils ne peuvent pas faire face à des loyers dans le privé qui sont inaccessibles.
Et pour le moment, aucune proposition n'a été faite pour reloger ces 150 personnes.
Merci Fiona Mogadam. 18h17 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Signée ce soir, Laetitia Chérel. Bonsoir.
Bonsoir.
Trois mois après la mort de 8 personnes à Marseille dans l'effondrement de deux immeubles en plein centre-ville, vous avez enquêté sur l'attitude de la mairie de Marseille. Depuis la catastrophe, on entend Jean-Claude Gaudin affirmer qu'il lui est difficile d'intervenir sur du logement privé. Or, vous nous révélez que la ville aurait pu et aurait dû faire des travaux sur ces logements et qu'elle avait même un budget pour ça.
Oui, il faut savoir que lorsqu'un propriétaire de logement délabré est défaillant, la ville peut intervenir, même si c'est dans le domaine privé, à travers ce qu'on appelle des travaux d'office. Ce sont des travaux d'urgence. Or, en 2014, la mairie de Marseille avait effectivement débloqué 2 millions d'euros pour se faire conseiller sur les travaux qu'elle pouvait engager. Mais 4 ans après, le constat est sans appel. La ville n'a quasiment pas utilisé cette enveloppe, comme l'explique Emmanuel Patrice, ex-urbaniste à la Soleam, la société d'aménagement de Marseille.
J'ai rencontré des opérateurs qui ont été mandatés récemment par la ville de Marseille pour intervenir sur ces travaux d'office sur plusieurs années, 4 ans. Sauf qu'on se rend compte qu'ils ont été pratiquement jamais sollicités et ils ont utilisé à peu près 15% de leur marché, alors qu'une enveloppe a été attribuée dès le départ pour intervenir.
Résultat, la mairie n'a déclenché que très peu de procédures de travaux d'office. Du coup, il souffle comme un vent de panique dans les services municipaux qui sont pris d'une frénésie d'arrêtés de péril. Ils en ont pris autant en 3 mois qu'en 4 ans. Et le comble, c'est que ces arrêtés de péril sont enfin pris alors que beaucoup de riverains les réclamaient depuis longtemps. J'en ai rencontré de nombreux qui me disent avoir alerté la ville à plusieurs reprises. Et c'est ce que confirme Florent Houdemont, le directeur de la Fondation Abbé Pierre dans les Bouches-du-Rhône.
La mairie, sans doute, a repris des dossiers qu'ils n'avaient pas suivis, qu'ils connaissaient, mais sur lesquels ils n'agissaient pas. Et là, par peur, d'un seul coup, on a agi et donc on a beaucoup, beaucoup d'immeubles évacués.
Le constat est le même pour les arrêtés d'insalubrité. Vous savez, des arrêtés qui visent des appartements rongés par l'humidité, la peinture au plomb ou qui sont infestés de rats. Désormais, la ville en prend, alors que ces dernières années, très peu de demandes avaient été transmises à la préfecture, une 20aine à peine en 3 ans.
Et qu'est-ce qu'on en dit de cette situation, Laetitia, à la mairie ?
Écoutez ce que m'a répondu Jean-Claude Gaudin.
Nous n'avons peut-être pas tout fait, c'est l'évidence même, mais nous avons fait beaucoup de choses. Je vous rappelle que ces copropriétés indignes sont totalement des copropriétés privées et qu'on n'entre pas aussi facilement dans ce domaine-là.
Quoi qu'il en soit, l'État, lui, s'impatiente. Il a demandé à la ville d'inspecter 4000 immeubles délabrés, ce qui correspond à 40 000 logements. Et ce lundi, en conseil municipal, la ville devrait transférer la gestion de ces fameux travaux d'office à la métropole de Marseille. Une décision que certains qualifient déjà d'un aveu d'inertie.
Merci Laetitia Chérel. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. Un temps toujours agité et encore pluvieux demain, notamment sur le sud du pays et jusqu'au massif central. Des chutes de neige sont une nouvelle fois à prévoir sur les hauteurs. Température minimale de 0 à 5 degrés d'est en ouest.